Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être ici ce soir. Je voudrais commencer par un remerciement tout spécial à Catherine Clément pour m'avoir conviée à prendre la parole devant vous. Ça n'est pas la première fois, c'est même plutôt la première qui m'a incitée à prendre la parole. C'est une vieille histoire, mais dans mon éducation de fille à moi, quand nous nous sommes connus il y a, ma foi, assez longtemps, nous sommes rencontrés dans une réunion où, face à un aréopage extrêmement masculin, Catherine, qui présidait la réunion, avait dit « Mais enfin, écoutez-la, elle a sans doute quelque chose à dire ». Manifestement, elle a continué à le penser, et c'est un peu de sa faute si je suis là ce soir, et donc je voulais lui dire toute ma gratitude. Puisque nous sommes ici, à l'Université populaire du musée du Quai Branly, j'aimerais essayer de vous faire voyager dans le temps, dans l'espace, et aussi dans la troisième dimension. Alors, troisième dimension, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je suis une fille, donc une bonne élève, et donc on m'a appris qu'il fallait toujours circonscrire un sujet avant de s'y atteler. Alors pour moi, l'éducation des filles, mais l'éducation en général, cela recouvre trois acceptions. Celle que l'on reçoit en famille, celle que transmet le corps social, et finalement, et peut-être seulement en troisième position, celle que l'école assure. J'aime bien reprendre à mon compte, et notamment dans mes fonctions actuelles, cette maxime que martelait Victor Hugo, l'éducation c'est la famille qui la donne, l'instruction c'est l'État qui la doit. Si ce n'est que je rajouterais bien autre chose. Alors évidemment, on ne reprochera pas à Hugo de ne pas avoir vécu à l'heure des réseaux sociaux et de Snapchat, mais j'ajouterais aujourd'hui, l'éducation, c'est de plus en plus les médias, l'entourage, la publicité et tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, s'affiche sur nos écrans, puisqu'il n'est plus nécessaire de sortir de chez soi pour que le monde y entre. C'est donc dans ces trois dimensions-là que je voudrais que nous voyagions et que nous essayions de regarder à quoi ressemble l'éducation des filles et peut-être, pourquoi pas, de temps en temps, en miroir, celle des garçons. On voyage dans le temps d'abord, partons dans l'Antiquité, pas la grecque, pas la romaine, en tout cas pas tout de suite. Je voudrais, sans aucune connotation politique, croyez-le, parler de la femme gauloise. Parce que la femme gauloise était associée aux décisions politiques par les druides. Elle était parfois chef, la dame de Vix en était certainement une, on en connaît quelques autres, et d'ailleurs elle faisait extrêmement peur aux Romains. D'abord pour leur courage physique, on a un texte assez amusant d'un dénommé Amien Marcellin, où il dit « Il faut voir ces viragos, les veines du cou gonflées par la rage, balancer leurs bras robustes d'une blancheur de neige et jouer des pieds et des poings assurant des coups qui semblent partir de la détente d'une catapulte. » On imagine que l'éducation de ces filles-là n'était pas particulièrement précautionneuse. Plutarque aussi nous en parle. C'est intéressant de voir que Plutarque avait trouvé utile de faire un traité des vertus des femmes, et c'était sans doute pour éduquer ceux qui, autour de lui, s'y intéressaient assez peu. Alors, il parle surtout des héroïnes grecques, mais il parle aussi de ses chefs gauloises. Il raconte l'histoire de ces Gaulois qui, avant d'avoir franchi les Alpes et de s'être établis dans la contrée qu'ils occupent de nos jours en Italie, furent en proie à des séditions si violentes et si difficiles à calmer qu'elles allèrent jusqu'à la guerre civile. Mais les femmes étant survenues au milieu des rangs armés, elles prirent en main les différends. Elles se chargèrent de les régler et leurs décisions furent tellement irréprochables que de cité en cité, de famille en famille, il se forma entre tous et d'un consentement unanime une bienveillance admirable. C'est depuis ce temps que les Gaulois ont conservé l'usage de délibérer touchant la guerre et la paix en compagnie de leurs femmes et de requérir l'arbitrage de celles-ci dans les contestations qui s'élèvent entre eux et leurs alliés. Ainsi, dans le traité qu'ils firent avec Hannibal, il fut stipulé que si les Gaulois formulaient quelques plaintes contre ceux de Carthage, ce seraient les gouverneurs et les généraux carthaginois résidant en Espagne qui les décideraient, mais que si au contraire ceux de Carthage se plaignaient des Gaulois, les femmes de ces derniers en seraient juges. On voit un peu d'où nous venons. Nous ne sommes pas les seuls. Dans l'Égypte ancienne, les jeunes filles étaient autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie. Les nourrices, en tout cas les nourrices royales, avaient mission d'être préceptrices et elles devaient donc avoir des connaissances. D'autres étaient chargées d'ateliers de filature rattachés au palais. Une femme ayant fait des études de scribe pouvait entrer dans l'administration en tant qu'intendante, comme chef de département des magasins, par exemple. Pendant l'Ancien Empire, c'est là que le plus de postes dans l'administration furent occupés par des femmes, et les femmes instruites pouvaient aussi faire partie du clergé. Que s'est-il donc passé pour que tout cela disparaisse ? Eh bien, c'est cette magnifique civilisation gréco-romaine qui nous a fait reculer un grand coup. Parce que là, vous le savez, nous le savons, c'est l'éducation des garçons qui compte et les femmes sont au foyer. En France, au Moyen Âge, éduquer les filles n'est pas une priorité. Qu'elles soient aptes à travailler au foyer, à la ferme, à l'échoppe, très bien, mais ça ne demande pas d'éducation, et en tout cas pas en dehors de la maison. On trouve à la fin du XIVe siècle un instructif livre pour l'enseignement des filles, signé de Geoffroy de Latour-Landry. Il faut savoir que ça a été un best-seller dans l'Europe entière. On y explique comment enseigner vertu, bienséance et piété à de futures bonnes épouses. Et c'est là tout le sujet. Il faut qu'elles soient bonnes épouses et bonnes chrétiennes. Et c'est tout ce qu'on attend d'elles. Au XVe, tout de même, on se dit que si elles pouvaient être en plus bonnes gestionnaires du foyer, ça ne serait pas plus mal. Et on trouve un autre traité signé par Vivès qui explique que de leur donner des notions de calcul pourrait avoir du sens. Mais s'ensuit toute une controverse sur la pertinence ou non de leur enseigner le latin. On hésite et puis finalement, c'est non. À la Renaissance, on parle de la culture de Marguerite de Navarre ou de celle de Marguerite de Valois. On souligne qu'elle parle latin, c'est suffisamment remarquable pour que ce soit remarqué. Alors le premier qui s'en inquiète vraiment, c'est Fénelon, c'est le traité de l'éducation des filles. Attention, il ne fait quand même pas la révolution. Ça commence assez bien, rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. La coutume et le caprice des mères y décident souvent de tout. On suppose qu'on doit donner à ce sexe peu d'instruction. On lit ça au XXIe siècle, on se dit « c'est parti ». Alors juste après, quand même, il est vrai qu'il faut craindre de faire des savantes ridicules. Ça n'est pas Molière, mais pas loin. Les femmes ont d'ordinaire l'esprit encore plus faible et plus curieux que les hommes. Aussi n'est-il point à propos de les engager dans des études dont elles pourraient s'entêter. Elles ne doivent ni gouverner l'État, ni faire la guerre, ni entrer dans le ministère des choses sacrées. Ainsi, elles peuvent se passer de certaines connaissances étendues qui appartiennent à la politique, à l'art militaire, à la jurisprudence, à la philosophie et à la théologie. Il ne leur reste pas grand-chose. Madame de Maintenon prend appui sur les principes de Fénelon et elle crée la maison royale des filles de Saint-Louis. Alors, quel est le programme ? Là, je la cite. Premièrement, à connaître Dieu et la religion. Il faut leur inspirer une grande horreur du vice et un grand amour pour la vertu. Il faut leur apprendre les devoirs d'une honnête femme dans son ménage, à l'égard de son mari, de ses enfants et de ses domestiques. On leur apprendra à se tenir de bonne grâce. On leur apprendra parfaitement à lire, à écrire l'orthographe, l'arithmétique. On leur doit apprendre à peigner, à coiffer quand elles sont destinées à servir. Puisque l'idée de cette maison, c'est d'éduquer des jeunes filles pas forcément fortunées pour leur trouver un mari. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les pensionnats anglais à partir de l'époque géorgienne et puis victorienne, bien sûr. On appelait tout ce qu'on enseignait aux jeunes filles les accomplishments. Et là aussi, l'idée, c'était de permettre à des jeunes filles peu fortunées de trouver un mari qui, lui, le serait davantage. Jane Austen décrit à merveille l'ambiance qui règne dans un pensionnat anglais, notamment dans un roman qui s'appelle Emma et qui commence de cette manière. Mrs. Goddard était la maîtresse d'un vrai pensionnat à l'ancienne où l'on vendait une quantité raisonnable d'accomplishments pour un prix raisonnable. On est en Angleterre, on regarde le prix. Et où l'on pouvait envoyer des jeunes filles pour s'en débarrasser, car elles pourraient, par leurs efforts, y acquérir un peu d'éducation sans le moindre risque qu'elles en reviennent en étant devenues de petits prodiges. Bon. Alors, les demoiselles de Madame de Maintenon, elles ont trouvé à se caser, puisque c'était l'idée. On les a quand même trouvées bien barbantes, les demoiselles de Saint-Louis, celles qui ont inspiré ensuite la Légion d'honneur. Des bégueules, des impertinentes, c'est Louis XV qui le disait, on se doute que ça n'était pas exactement son genre de beauté. Elles ont inspiré la Légion d'honneur, je l'ai dit. Alors, deux anecdotes pour montrer quand même que la Légion d'honneur, ça a bien changé. Il y a quelques années de cela, j'étais en poste au Sénégal, Catherine Clément s'en souvient, et nous avons reçu la visite des jeunes filles de la Légion d'honneur, puisque au Sénégal, à Gorée, très exactement, se trouve une institution copiée sur les jeunes filles de la Légion d'honneur, qui est la maison des jeunes filles de l'Ordre du Lion. L'Ordre du Lion, c'est l'équivalent sénégalais de la Légion d'honneur. Et donc, nous recevons la surintendante, on est dans une logique assez militaire, les jeunes filles, et on se demande s'il se trouve parmi les Françaises résidentes au Sénégal d'anciennes de la Légion d'honneur. Et on en trouve. On en trouve deux. L'une d'elles, installée comme designer et créatrice de meubles, extrêmement sympathique, et l'autre qui, à l'époque, n'avait pas encore monté sa propre entreprise, dont les cheveux étaient violets. Et il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on pouvait présenter une mère de famille aux cheveux violets à la surintendante de la Légion d'honneur. Évidemment, la réponse fut oui, rien que pour le plaisir du rictus. Plus récemment et très exactement cette semaine, j'ai reçu trois jeunes filles de la Légion d'honneur qui faisaient ce qu'on appelle un TPE. Ceux d'entre vous qui ont des adolescents savent ce que c'est qu'un TPE. C'est un travail collectif qu'on demande à des jeunes de seconde sur un sujet donné. Et c'est Et ces trois jeunes filles, c'était Léna. Donc je les reçois. Et elles arrivent en barésie, mini-jupe et basket. Et je me dis que Madame de Maintenon doit se retourner dans sa tombe, où elles étaient éminemment sympathiques, donc la Légion d'honneur a bien changé. Revenons à l'histoire. Donc on le voit, des jeunes filles éduquées la plupart du temps à être de bonnes épouses, de bonnes chrétiennes, et la plupart du temps au couvent. C'est là que ça se passe. On y entre pour être éduqué, on en sort pour être marié, on y retourne quand ça ne se passe pas bien. C'est le destin des jeunes filles. Évidemment, il y en a un que ça agace, et c'est Voltaire. Et il fait un petit texte en 1761 assez guiret qui s'appelle « Là encore, l'éducation des filles ». On n'a décidément pas beaucoup d'imagination pour traiter ce sujet, on a tous le même titre. Alors, il s'en prend à l'éducation que les jeunes filles reçoivent dans les couvents. Et ce petit texte est écrit à la première personne par une jeune fille. « Ma mère m'a cru digne de penser de moi-même et de choisir un jour un époux par moi-même. Si j'étais née pour gagner ma vie, elle m'aurait appris à réussir dans les ouvrages convenables à mon sexe. Mais née pour vivre dans la société, elle m'a instruite de bonheur dans tout ce qui regarde la société. » Elle a formé mon esprit en me faisant craindre les écueils du bel esprit. Elle m'a mené à tous les spectacles choisis qui peuvent inspirer le goût sans corrompre les mœurs, où l'on étale encore plus les dangers des passions que leur charme, où la bienséance règne, où l'on apprend à penser et à s'exprimer. La tragédie m'a paru souvent l'école de la grandeur d'âme, la comédie l'école des bienséances, et j'ose dire que ces instructions, qu'on ne regarde que comme des amusements, m'ont été plus utiles que les livres. Enfin, ma mère m'a toujours regardée comme un être pensant, dont il fallait cultiver l'âme, et non comme une poupée qu'on ajuste, qu'on montre et qu'on renferme le moment d'après. » Voilà l'éducation des filles idéale de Voltaire. On voit donc que le bon Voltaire se méfie quand même. De l'éducation, oui, en dehors du couvent, on s'en serait douté, mais en craignant les écueils du bel esprit tout de même. Qu'en a pensé la Révolution ? On le sait par Olympe de Gouges. Sans doute pas grand-chose. La Révolution n'était pas éminemment féministe. Les tricoteuses, oui, mais elles masquent des réalités moins glorieuses. Savez-vous que le droit de vote des femmes, existait sous l'Ancien Régime ? Alors évidemment, dit comme ça, droit de vote sous l'Ancien Régime, mais qu'est-ce que je raconte ? Quand il venait au roi l'idée assez rare de convoquer les états généraux, les veuves propriétaires de biens disposaient du droit de vote. La Révolution a aboli ce droit de vote. Les premières combattantes qui ont vaillamment répondu à l'appel à lutter contre les Prussiens et contre les Autrichiens, et qu'on a vu combattre à Valmy, à Jemappe, ont été sommés par la Convention de quitter le champ de bataille, accusés de troubler la sérénité des soldats. L'éducation des filles a même failli passer totalement à la trappe avec les religieuses qui l'assuraient plus ou moins. Alors, heureusement, vint Condorcet, avec lui le principe d'une instruction publique ouverte à tous, même si elle n'est pas obligatoire, à tous et à toutes. Il se bagarre, il essaye de faire passer l'idée d'école publique, élémentaire, mixte. Il échoue lamentablement. Condorcet, Lacanal, Sieyès, Grégoire, Le Peltier, tout le monde s'en mêle, tout le monde débat fébrilement sur l'instruction publique, avec une remarquable inefficacité dans les faits. la séparation des sexes est la règle dans les premières écoles publiques qui sont instaurées et qui d'ailleurs peinent à convaincre. Sans beaucoup de surprise, le grand Napoléon n'accorde guère d'attention à l'éducation des filles, laissé en fait largement à l'initiative des congrégations qui sont revenues en cours. C'est d'ailleurs les heures glorieuses du couvent des oiseaux. Tant mieux, parce que quand Napoléon s'en mêle pour s'occuper de la maison de la Légion d'honneur, c'est à sa manière. Il s'agit, je cite, de former des femmes vertueuses, loin des plaisirs et des amusements. En raison de la faiblesse de leur cerveau, il faut les occuper les trois quarts de la journée à des travaux manuels, des ouvrages de dames. Pendant ce temps-là, les lycées de garçons fleurissent partout à travers le territoire. Et c'est Napoléon le Petit qui la fera, cette éducation des filles, grâce à son ministre, Victor Duruy, fils d'ouvrier, qui veillera à ce que chaque village de plus de 500 habitants ait son école de filles, contre l'opposition de l'Église, qui y voyait une diminution de son influence. Du temps où Victor Duruy était ministre de l'Instruction publique, ce sont 800 écoles de filles qui ont été ouvertes. Le vrai héros de l'éducation des filles en France, c'est Napoléon III, si décrié par ailleurs, et plus encore, c'est l'impératrice Eugénie. Qu'on y songe, en 1861, grâce à l'intervention directe de l'impératrice, Julie-Victoire d'Aubier devient la première bachelière de l'histoire de France. Une sacrée femme, Julie-Victoire d'Aubier, née dans les Vosges, enseignante, entrepreneur en broderie, saint-simonienne, journaliste économique. Après avoir eu son baccalauréat, elle prépara son diplôme de licence, sans pouvoir assister aux cours de la Sorbonne qui était fermée aux femmes. Elle l'obtiendra. De la même manière qu'elle avait préparé l'épreuve de sciences naturelles du baccalauréat en étudiant au Muséum d'histoire naturelle le soir après la fermeture du musée au public. En 1862, une première école professionnelle pour jeunes femmes est ouverte. Au même moment, Madeleine Bresse devient la première femme à s'inscrire à la faculté de médecine de l'Université de Paris. J'aimerais aussi vous parler d'elle. Mariée à 15 ans à un conducteur d'omnibus, Madeleine Bresse avait, dans sa petite enfance, connu des religieuses qui lui avaient appris à faire des cataplasmes et elle s'était mise en tête de devenir médecin. Pour ça, il lui faut d'abord passer son bac et donc, bien sûr, obtenir l'autorisation de son mari. Elle obtient l'un et l'autre. Alors elle sollicite son inscription en médecine. Et voici ce qu'en écrit le brave docteur Montagnier en 1868 dans la Gazette des Hôpitaux. Je le cite. « Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en sera arrivée là, je me demande... que restera-t-il de la femme ? Un être qui ne serait plus ni une jeune fille, ni une femme, ni une épouse, ni une mère. » L'affaire suivie personnellement par Victor Duruy est évoquée en Conseil des ministres et c'est l'impératrice Eugénie qui, se référant à la loi du 19 Ventôse en 11 proclamant la liberté du travail, obtient que soit acceptée l'inscription de Madeleine Bresse. Madeleine Bresse a alors 26 ans et elle est déjà mère de 3 enfants. Pendant la guerre de 1870, elle sert d'interne provisoire, les chirurgiens étant au front. Alors elle demande naïvement son inscription au concours de l'externat puis de l'internat. Cela lui sera refusé. Elle soutiendra sa thèse en 1875 sur le sujet « De la mamelle à l'allaitement ». Elle obtient la mention « Très bien » et devient la première Française docteur en médecine, bien décidée à se spécialiser dans la santé de la mère et de l'enfant et de ce qui ne s'appelle pas encore l'éducation sexuelle. En 1898 paraît le premier manuel qui pourrait ressembler à un manuel d'éducation sexuelle. Alors, longtemps, ça a été totalement inutile. Lorsqu'on vivait à la campagne, on regardait les animaux. Lorsqu'on vivait dans des logements étroits, on regardait ses parents. L'urbanisation fait que la question se pose et on trouve un premier manuel destiné aux mères, l'école de la pureté s'appelle le manuel. Il est en fait destiné à ce qu'elles apprennent aux filles à se protéger du fléau de la syphilis. On est dans une logique hygiéniste et pas tout à fait dans le Kama Sutra. On va y rester longtemps. 1907, Jeanne Leroy Allais, sœur d'Alphonse Allais, sans doute un peu moins drôle, ose braver l'opprobre en publiant « Comment j'ai instruit mes filles des choses de la maternité ». Je vous en recommande la lecture, elle est tout de même ardue. On peut penser qu'avec le Second Empire et la Troisième République, le plus dur était fait, que le coup d'envoi d'une éducation égalitaire pour les filles et les garçons était donné. J'ai relu des petits morceaux des mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir et de son passage au cours d'Eusire. Il n'a pas grand-chose à envier aux maisons des jeunes filles de Saint-Louis de Madame de Maintenon. On y enseignait l'art de faire la révérence, la foi chrétienne, le pastel, le tricot, et surtout pas plus de 12 heures d'enseignement des disciplines académiques par semaine. On comprend mieux pourquoi Beauvoir a eu soif de libération. Alors c'est bien après la Deuxième Guerre mondiale que tout change et tout bouge. En matière d'éducation sexuelle, notamment, cela commence à remuer un peu, même si, à défaut d'être hygiéniste, les préoccupations dans les années 50 sont avant tout natalistes. Il faut s'assurer que les jeunes filles sachent comment on fait des enfants. En matière d'études, on est un peu surpris a posteriori par le maintien durable d'écoles de filles séparés des écoles de garçons et des écoles mixtes. Pour les plus jeunes d'entre vous, je voudrais faire un petit flashback. Normale Sup Jeune Fille à Sèvres n'a fermé qu'en 1985, en fusionnant avec Ulm, et ça n'a pas été sans réticence, Sèvres étant désigné comme moins prestigieux que la rue d'Ulm. On se doit peut-être aussi de rappeler que les enseignants de la rue d'Ulm n'étaient que maîtres de conférences, alors qu'à Sèvres, il y avait des professeurs, et qu'en conséquence, les femmes devenaient hiérarchiquement supérieures à leurs confrères de la rue d'Ulm au sein de l'école fusionnée. On comprend un peu mieux pourquoi ça ne s'est pas fait en quelques heures. HEC Jeunes Filles, créée en 1916, très bien, ne ferme ses portes qu'en 1975. Après avoir achevé la scolarité de la dernière promotion non mixte, recrutée en 73 quand même. Jusqu'en 73, le concours d'HEC était réservé aux garçons. Alors c'est le moment de tirer un coup de chapeau peut-être un peu inattendu au féministe inconnu qu'est Michel Debré. Michel Debré, quand il a créé l'École nationale d'administration en 1945, a décidé de la créer immédiatement mixte. C'était la première fois qu'on créait une grande école en décidant d'entrée de jeu qu'elle était ouverte aux femmes comme aux hommes. L'argument qu'il a mis en avant, c'est que si les femmes étaient assez bonnes pour se faire trouer la peau pendant la résistance, elles étaient probablement assez nécessaires pour reconstruire le pays. C'était imparable. Quand il a été ministre de la guerre, puisque c'est comme ça qu'il s'est appelé en 1971, c'est lui qui a forcé Polytechnique à s'ouvrir aux filles aussi. 1971, là encore, hein. On ne parle pas du 19e siècle. On peut penser que Michel Debré a surtout pris l'exemple de sa mère, parce qu'on connaît tous Robert Debré, son père, et on sait moins que sa mère fut une des toutes premières femmes chef de clinique en France. Tout cela paraît bien loin. On a l'impression qu'on est dans l'histoire et dans le temps. Je voudrais rappeler que j'ai eu le privilège de faire mes études primaires et secondaires avec une petite fille, puis une jeune fille rêveuse et déterminée à devenir la première femme rabbin de France, Pauline Bèbe. Pour y parvenir, elle dut faire ses études à Londres, puis à Jérusalem, parce qu'en France, on le lui avait refusé. Alors après cette promenade à travers les âges, je voudrais continuer à vous faire voyager, mais peut-être plutôt à travers le monde, de manière totalement subjective, et c'est assumé, le monde que je connais, tel que je l'ai vu et tel que je l'ai vécu, en commençant peut-être par l'Afrique et en commençant par la polygamie. Alors ce n'est pas moi qui vais vous faire l'éloge de la polygamie. J'ai trop vu souffrir les premières épouses à qui brutalement le mari ajoute sans leur consentement ce qu'on appelle avec une belle hypocrisie des petites sœurs. Je les ai vues souffrir et j'en ai même vu mourir certaines de chagrin. Et je pense à elles à chaque fois que je pense à la polygamie. Alors aujourd'hui, bien sûr, le divorce est permis. Ça ne veut pas dire qu'il est socialement accepté, qu'il soit facile. N'est pas venu le jour où une épouse arriverait tout de go annonçant des petits frères à son mari tout de même. Donc pas d'éloge de la polygamie, non, mais un constat. Ce que j'ai vu sous d'autres latitudes africaines, c'est le contraire de ce slogan qu'on a beaucoup et peut-être trop entendu dans ce pays. La famille, ce n'est pas forcément un papa plus une maman. Pas seulement. On peut donc parfois être élevé par plusieurs femmes et ne pas en être malheureux. J'ai vu des enfants de familles polygames témoigner qu'ils avaient eu le sentiment de recevoir beaucoup plus d'amour que d'autres. Et puis j'ai vu aussi ce que l'Afrique sait produire depuis si longtemps, sans recourir à la science, comme gestation pour autrui généreuse. J'ai vu ses frères et sœurs décider de venir en aide à ceux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et avoir un enfant pour le donner à ceux qui étaient stériles. J'ai vu ces familles pauvres confier leurs enfants ou certains de leurs enfants aux cousins ou à l'oncle plus riche qui les élevait comme les siens. J'ai depuis longtemps renoncé avec mes nombreux amis africains à clarifier les choses quand ils me parlent de leur mère, de leur père, de leurs frères, de leurs sœurs. Statistiquement, la moitié du temps, ça n'a pas grand-chose de biologique, mais les liens sont extrêmement forts. L'éducation des enfants, petits garçons et petites filles, c'est quelque chose d'extrêmement collectif. C'est quelque chose que j'ai extraordinairement admiré et c'est quelque chose qui m'a inspirée dans l'éducation de mes enfants à moi. Ils ont beaucoup de tantes qui en sont vraiment, même si elles ne sont pas mes sœurs, ou en tout cas elles le sont par affection. Et je me dis toujours que si je venais à disparaître, ils auraient toujours une famille. Alors ensuite, parlons des petites filles plus spécifiquement. viennent les rites de passage. Et en Afrique, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler des mutilations, et en particulier de l'excision. En Afrique, mais pas seulement, le savez-vous, l'excision est pratiquée ailleurs que sur le continent africain. Elle l'est notamment dans une partie de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est. Et le tabou qui règne sur cette excision-là me glace d'effroi, parce qu'il y a quand même bien des hommes qui ont bien dû un jour s'en apercevoir. Aujourd'hui, on chiffre à 140 millions le nombre de femmes excisées dans le monde. Si on doit continuer à parler de l'Afrique, il y a évidemment beaucoup de choses inquiétantes à dire sur les petites filles. Illettrées, elles le sont pour à peu près 55% d'entre elles, croit-on savoir aujourd'hui. C'était le chiffre des petites filles illettrées avant que Victor Duruy ne s'en occupe, chiffre qu'il avait fait tomber à 32% le temps de son mandat de ministre de l'Instruction civique. Soumises à des mariages précoces, parfois forcés, mères parfois trop tôt, trop souvent, et souvent les premières victimes des violences de la guerre. Pourtant, je ne voudrais pas me contenter de cette litanie d'horreur, même si elle existe, parce que ça n'est pas rendre justice à la joie des femmes et des filles africaines. Ce n'est pas rendre justice à ce qu'il y a de touchant et souvent d'extraordinairement intelligent dans d'autres genres de rites de passage, très collectifs, notamment dans l'enseignement de la médecine traditionnelle, tel qu'il est prodigué aux jeunes filles quand elles deviennent pubères, à l'enseignement de la sexualité, toutes choses qui se font pour qu'elles trouvent leur place dans le monde adulte et qui se font avec l'aide de la communauté et donc avec fort peu de solitude. Je voudrais vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique, puisque j'y ai vécu aussi, et vous dire l'exotisme que j'y ai trouvé. Un exotisme inattendu, on croit qu'on sait tout, on a vu tous les films possibles et imaginables sur les États-Unis, toutes les séries aussi, j'y reviendrai. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister sur le sujet de ce soir. C'est d'abord l'extrême pudibonderie dans l'éducation des enfants, et puis quelque chose qui relève, de mon point de vue en tout cas, d'un délire qui parfois nous guette, ce qu'on appelle de cet affreux mot de « parenting ». Alors la pudibonderie tout d'abord, les enfants sont élevés de manière assez oppressante sur tout ce qui, de près ou de loin, peut ressembler à l'évocation du sexe. À la télévision américaine, un enfant qui regarderait la télévision toute la journée y verrait une moyenne de 23 homicides par jour, mais il n'y verra jamais la pointe d'un sein. Parce que ça, c'est traumatisant. Je vais vous raconter un incident dont j'ai été témoin à la piscine où mes enfants apprenaient à nager. C'était le premier cours, c'était un cours mixte, les enfants avaient 5 ans, et c'était la première fois qu'on les mettait dans le grand bain sans brassard. Alors c'était évidemment pas extraordinairement brillant. Ce qu'il y a de très bien aux États-Unis, c'est qu'on leur dit tout de suite « great, good job, vous êtes formidables », même quand ils sont en train de se noyer à moitié. Mais alors il y en avait un qui se noyait un tout petit peu plus qu'à moitié, et qui a eu comme réflexe de se raccrocher à la première chose qu'il avait sous la main. Alors la première chose, c'était la première personne, c'était la petite fille devant lui, et pas de chance, la première chose, c'était le maillot de bain de la petite fille qui a glissé. Et donc la petite fille s'est retrouvée toute nue dans l'eau, ce qui l'a énormément fait rire. Les parents, pas du tout. Le cours de natation, moins encore. Menace de recours judiciaire, obligation de soins psychologiques pour un petit garçon de 5 ans pendant un trimestre. Je ne sais pas s'il a jamais réussi à apprendre à nager. C'est le quotidien de tous les jours. Ça explique aussi qu'on ne peut pas s'embrasser sur les joues, que les enfants à l'école apprennent soit à serrer la main, mais c'est déjà un contact un peu chaleureux, soit à faire ce qu'on appelle le fameux bear hug, l'étreinte de l'ours, ça fait tout de suite très envie, qui consiste à faire semblant de se rapprocher, mais surtout à ne pas se toucher. Alors moi, j'ai mis très très longtemps à y arriver, parce que évidemment, j'avais tendance à toucher les gens et je voyais que c'était assez déplacé. Alors vous êtes élevé comme ça pendant toute votre enfance, pendant la première partie de votre adolescence, avec une interdiction de boire de l'alcool qui est absolue et mise en œuvre avec beaucoup de rigueur. Et puis vous arrivez au college, et là, la première année, vous partez en spring break. Alors il y a maintenant une certaine filmographie qui vous donne une petite idée de ce que c'est. Les bizutages des week-ends d'intégration français, c'est de l'eau de rose à côté. C'est la débauche la plus totale. Ne prenez jamais une réservation d'hôtel dans un endroit où il y a un spring break, parce que c'est absolument orgiaque. Et donc, filles et garçons y perdent leur virginité, avec ou sans consentement, et c'est tout le... la litanie du harcèlement et des viols sur les campus. Trop de pudibonderie se termine en général assez mal. Après ces années collège et université, on rentre dans le rang, on se marie et on devient, et là je reviens aux séries américaines, parfois une desperate housewife. Il y en a une à la tête des États-Unis aujourd'hui, qui reste à New York pour s'occuper de l'éducation de son petit garçon. C'est vrai qu'il n'y a aucune école digne de ce nom à Washington. Alors, ça donne des phénomènes extraordinaires. Ça donne le fait que pour les femmes d'hommes riches, elles se voient verser un salaire avec prime de performance en fonction de la manière dont elles sont capables d'éduquer leurs enfants. L'obsession de la réussite se transforme sur la réussite de ses enfants. Et donc, être une mère, c'est un travail à temps plein. Je l'ai été 6 mois, puisque j'ai attendu mon dernier enfant à Washington, et c'était le quatrième, et que pour la première fois de ma vie, je prenais un vrai congé maternité. Donc, j'ai eu envie de voir ce que c'était que d'être une héroïne de série américaine. Je passais 4 heures par jour dans ma voiture, à conduire mes enfants à toutes les activités censées les éveiller. C'est absolument épouvantable. Il y a un merveilleux livre qui s'appelle Perfect Madness, Motherhood in a Time of Anxiety. Il a été écrit par une de mes amies journalistes américaines qui avait eu le malheur d'avoir ses enfants en France et ensuite de rentrer aux États-Unis. Elle a beaucoup de mal depuis. Et donc, c'est ce qu'on appelle le parenting. C'est tout ce qu'il faut pour être un bon parent, il ne faut se faire aucune illusion, c'est être une bonne mère. Et aujourd'hui, être une bonne mère, ça demande à peu près le niveau d'un doctorat d'université, tellement c'est compliqué. Énorme angoisse, énorme pression sur les mères, bien sûr, sur les enfants aussi, et sur la réussite. Voilà le petit détour que je voulais faire pour dire que on pouvait parler de l'Afrique, on pouvait s'inquiéter de ce qui se passait ailleurs en Occident, et puis on peut parler de la Chine, on peut parler du Japon, le tour du monde de l'éducation des filles, et pas totalement enthousiasmant d'une manière générale. Alors ce que je voudrais maintenant, c'est vous raconter une belle histoire, vous dire qu'aujourd'hui en France, ça y est, on y est, tout va bien, que c'est le progrès continu et universel qui nous a toutes amenés au point d'aboutissement dont on rêvait. En fait, il faudrait que je vous raconte un conte de fées. Et là encore, ça va se gâter parce que les contes de fées, j'ai une dent contre eux. On fait lire aux petites filles des histoires tragiques. Alors, je ne vais pas le faire à travers du prisme de la psychanalyse, d'autres ici feraient bien mieux que moi, mais Belle au bois dormant, Elle dort et elle attend que le prince charmant vienne la réveiller. Barbe bleue, elles sont 7 à payer de leur vie leur curiosité. La petite sirène, elle aime et elle en meurt. Cendrillon, prince charmant. Peau d'âne, prince charmant. Alors, c'est pas l'opéra ou la défaite des femmes, mais c'est quand même, tout grâce aux hommes, la libération de Blanche-Neige, c'est le jour où elle va faire le ménage des 7 nains. Et c'est ça qu'on lit depuis toujours, et encore aujourd'hui, pendant ce temps, les petits garçons, Robin des Bois, D'Artagnan, La Guerre des Étoiles, Le Seigneur des Anneaux, j'en passe et des meilleurs. Moi, j'ai eu une chance formidable. Quand j'avais 6 ans, j'avais un amoureux et il m'a offert son livre préféré. C'était Bayard, Fleur de Chevalerie. Et ça se terminait comme ça. Il n'est besoin de pitié pour moi car je meurs en homme de bien, mais j'ai pitié pour vous car vous servez contre votre prince et contre votre patrie. Je dois à mon amoureux de 6 ans de m'être forgé un autre imaginaire que mes petites camarades, qu'il en soit remercié. Alors ça, c'était au siècle dernier, quand j'avais 6 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est mieux ? Aujourd'hui, tout est genré. Alors, je suis désolée, ce mot est laid, mais on peut commencer par les jouets. Aujourd'hui, les Legos, il y a des Legos pour garçons, et des Legos pour filles, et les Legos pour filles sont plus faciles que ceux pour garçons, pour une raison que je ne m'explique pas. En décembre dernier, Playmobil a publié un calendrier de l'Avent, ou plutôt 2, un bleu pour les garçons, un rose pour les filles. Ils ne fêtaient évidemment sans doute pas la même fête. Alors pour les filles, c'était des personnages Playmobil, bien raides, bien coiffés comme Angela Merkel. Rose, raide devant un sapin dans une maison, et pour les garçons, pour Noël, c'était des petits garçons en train d'éteindre un incendie, probablement déclenché par le sapin des petites filles, si ça doit être ça le lien entre les deux. Mais enfin, en tout cas, ils ne peuvent pas avoir le même jouet au même moment. Les livres, c'est la même chose, j'en ai parlé. Les jeux vidéo, alors je vous recommande d'aller faire un tour au recrutement de l'école 42. Vous savez, l'école que Xavier Niel a montée, formidable, pour former gratuitement des codeurs, des développeurs. Et le brave Xavier Niel me dit, parce que je vais à son recrutement, ça s'appelle une piscine, me dit, je suis très embêtée, il n'y a que des garçons. Effectivement, 10% de filles, une odeur de bouc. Bon, il reste 5 semaines, hein, il faut dire. Et il y a une seule série de douches. Et on se couche là où on peut pour dormir. Alors, il est certain que les filles ne sont peut-être pas complètement ravies. Bon, passons. Je lui dis, bon, l'ambiance n'est pas très attrayante. Et qu'est-ce que vous faites comme recrutement ? Il me dit, vous allez voir, c'est très ludique. On les oblige à coder pour monter un jeu vidéo. Très bien, je m'assieds à un ordinateur, je regarde l'écran. Le truc très ludique sur quoi il faut travailler 5 semaines pour devenir un bon codeur, c'est faire se rouler un ours dans de la bière. On n'est pas près d'avoir beaucoup de femmes codeuses dans notre pays. Je signale qu'il y a 16% des métiers aujourd'hui qui connaissent une vraie mixité, c'est-à-dire une parité relative entre hommes et femmes dans le métier. 16%. Tous les autres sont dominés de manière écrasante, soit par les hommes, soit par les femmes. Oui. Ah bah, tout ce qui est pas amusant, les maisons de retraite, le soin aux enfants, aux personnes âgées, tout ce qui est un peu sale, dégradant, mal payé. Là, si vous voulez devenir patron, patronne de maison de retraite, on vous le disputera pas. Les sports. Ne vous avisez pas d'aimer l'équitation si vous êtes un garçon aujourd'hui. Alors c'est le rêve de mes fils. Ils ont tous appris à monter à cheval quand on était au Maroc. Et ils sont les rois du pétrole, puisque chaque fois qu'ils vont dans un club équestre, ils sont les seuls garçons. C'est un truc de filles. Et d'ailleurs, tout ce qui va autour, la littérature, les films, les séries, même les culottes d'équitation sont roses, ce qui leur pose un sérieux problème quand même.
Bon, à propos du rose, vous avez peut-être vu ce hashtag et ce blog « Marre du rose », parce qu'effectivement, moi, quand j'étais enfant, j'ai porté des couleurs de mon époque, marron, violet, jaune, orange, et le tout mélangé. Je ne dis pas que c'était heureux, mais c'était les mêmes que mes camarades garçons. Aujourd'hui, c'est impossible. Et puis, peut-être encore plus sérieusement, même si tout ça est assez sérieux, l'espace public, en particulier dans les quartiers dits « sensibles », est mis à disposition des garçons. Les subventions des collectivités locales sont destinées à des terrains de foot, de basket, de skate, qui sont exclusivement occupés par des garçons, les filles n'ayant qu'à raser les murs en essayant de ne pas se faire harceler avant de rentrer chez elles. Étonnez-vous qu'elles aient un certain type d'habillement après ça. Alors, petite enfance, tout est genré. Adolescence, tout est sexué. Ça commence par les minimis, ça nous vient des États-Unis, mais ça a pris en France. Ça continue par la chirurgie esthétique. Savez-vous quel est le cadeau le plus souvent fait par la bourgeoisie brésilienne à une jeune fille pour ses 18 ans ? Une nouvelle paire de seins. Par la bourgeoisie coréenne à sa fille de 18 ans, se faire débrider les yeux, parce qu'il faut dans son CV avoir une photo avec des yeux débridés pour espérer décrocher un entretien d'embauche. Je parlais de l'éducation qui nous vient du corps social. On se glorifie de l'explosion d'Internet, du fait que la connaissance, le savoir, l'intelligence arrivent jusqu'à nous. Les tutos de maquillage aussi. Les femmes, quand elles sont youtubeuses, c'est pour nous expliquer comment on se maquille. Vous connaissez certainement tous et toutes Enjoy Phoenix. 2,7 millions d'abonnés. Kim Kardashian, 91 millions de followers sur Instagram après s'être fait refaire les fesses. Alors évidemment, tout ça, c'est assez distrayant, sauf que... Il y a quelque chose qui s'appelle, par exemple, le size gap, la mode qui consiste à avoir forcément un écart entre les cuisses pour être tendance. Alors, quand vous ne l'avez pas spontanément, il faut maigrir beaucoup et vraiment beaucoup. Et on a beaucoup de jeunes filles qui s'imposent des régimes délirants pour y arriver. Faites un tour sur le Facebook de vos filles ou des copines de vos fils, puisque moi j'ai 4 garçons. Elles changent de photo de couverture toutes les 2 heures. Et il y a immédiatement des petits cœurs de leurs copines avec « comme tu es belle, comme tu es belle, comme tu es belle ». Mes fils font un sketch absolument parfait, à la fois sur Enjoy Phoenix et sur le Facebook de leurs amis. Ça donne des anorexies comme on n'a jamais vu. Et ça donne un taux de suicide des jeunes filles absolument délirant. Il y a quelque chose qui s'appelle le body shaming. Alors on en parle quand il s'agit d'une actrice qui a grossi au moment où elle était enceinte. On en parle moins quand c'est au collège, que la pauvre fille de 13 ans qui n'est pas plus tout à fait une petite fille, pas encore complètement une femme et qui vient surtout de prendre 10 kilos, prend des commentaires absolument épouvantables, assez peu en face, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça peut très très mal se terminer. Les réseaux sociaux et les jeunes filles, ça peut aussi très mal se terminer, on le sait maintenant, en transformant des jeunes filles ordinaires en aspirantes au djihad, le tout en parfois 2 semaines. J'en parlais ce midi avec la responsable de la lutte contre la radicalisation. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le corps social qui procède par aliénation des petites filles et des jeunes filles, dans un cas comme dans l'autre, pas moins dans le premier cas que dans le deuxième. Je voudrais quand même dire que c'est ce dont je suis convaincue. Alors, pour revenir à l'éducation, à l'école et en famille, un mot sur ce que nous faisons, nous, aujourd'hui, en famille. Une très belle étude américaine le dit très bien. Que dit-on à des petites filles, à des petits garçons quand on les rencontre pour la première fois ? Pas la même chose selon que c'est une petite fille ou un petit garçon. Une petite fille, on va lui dire « comme tu es belle, comme tu es bien coiffée,
comme tu es bien habillée, comme c'est gentil de me passer les petits biscuits d'apéritif. Mais on le fait tous, hein. Aux petits garçons, bien habillés, bien coiffés, c'est pas gagné. Les petits biscuits d'apéritif, encore moins. Et donc, pour entamer la conversation, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Ah, c'est formidable, tu es un héros. Un enfant se construit pour faire plaisir aux adultes. Et donc, on donne aux enfants, en famille, le message qu'on n'attend pas, la même chose d'eux. Ils l'entendent parfaitement, en 2017. Le seul moment où on fait la même chose pour les uns ou pour les autres et où on ne se trompe pas trop, c'est la bicyclette. On leur dit « monte dessus, je te pousse ». On leur dit évidemment pas le moment où on lâche. Ils tombent. On leur dit « c'est formidable, tu as quand même fait un mètre ». On les remet dessus, ils font 5 mètres. On les remet dessus, ils font 15 mètres. On les remet dessus, on a mal au dos. Ils savent faire du vélo. On leur a appris à prendre un risque, à ne pas avoir peur de l'échec et à recommencer. Qu'on fasse la même chose pour les petites filles et pour les petits garçons, pour tous les apprentissages de la vie, et déjà, on aurait fait une partie du travail. Alors, normalement, à l'école, tout s'arrange, puisque les petites filles sont bonnes élèves. C'est même les meilleures élèves de la classe. Et on devrait dire merci à l'école, sauf que, là aussi, les chercheurs ont cherché, et ils ont trouvé que les instituteurs, qui sont quand même des institutrices, donc ce n'est pas un grand complot des hommes pour dominer les femmes, hein. C'est une grande habitude prise dont on n'arrive pas à sortir, n'interroge pas les petites filles et les petits garçons de la même façon, dès l'école primaire, avec une seule terreur, c'est que les petits garçons décrochent, terreur justifiée, puisque les petits garçons, enfin les garçons, c'est 81% des décrocheurs du système scolaire, donc il faut les raccrocher. Donc la petite fille, on lui demande le matin de réciter la leçon de la veille. Et donc, comme elle veut que ça marche, elle va écouter en cours, réviser à la maison et réciter le lendemain. Ça demande des capacités d'écoute, d'attention, de concentration et de docilité. Le petit garçon, comme on sent que c'est pas sûr qu'il va pas décrocher, on va lui demander de parler du sujet qu'on va aborder dans la journée en faisant appel à ses compétences extrascolaires. Qu'est-ce qu'il a vu sur Internet, où est-ce qu'il a été pendant ses vacances pour le sujet du jour. Et donc, il improvise, il bricole, il se lance. S'il a trouvé, c'est formidable. S'il s'est trompé, c'est formidable, puisque de toute façon, c'était la leçon du jour, il n'était pas censé la connaître. Vous passez 15 ans à ce régime-là, vous avez des bonnes élèves parce qu'elles sont dociles, et des garçons qui n'ont peut-être pas de bons résultats, mais qui ont appris ce qui se passait dans la vraie vie. C'est-à-dire, je prends tout ce que je trouve, j'essaye, je me lance, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, sur un malentendu, ça peut passer, comme disait Jean-Claude Duze. Et dans les concours, comme dans les recrutements, les hommes réussissent mieux que les femmes, comme ils échouent mieux que les femmes aussi. À l'ENA, à l'oral de l'ENA, les hommes ont 15 ou 5, les femmes ont entre 8 et 11. Et dans un concours, il faut avoir 15, il faut parfois pas avoir 11. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir la parité, en tout cas pas tout à fait. Donc les filles surperforment à l'école pour des mauvaises raisons. Elles ne s'inquiètent pas trop puisque ça se passe bien. Et c'est dans la vraie vie que ça se passe moins bien. Et évidemment, avec des bonnes notes, quand on est docile, un prof qui va vous gratifier sans qu'on soit allé le chercher, et en plus la lecture des contes de fées, eh bien, ça explique que les femmes, comme on le dit tout le temps, candidatent moins que les hommes, demandent moins, ne demandent pas d'augmentation, pas de promotion, ne sont dans le principe de précaution. Ça n'est pas une auto-censure, ça n'est pas génétique, ça n'est pas dans le caractère des femmes. C'est un conditionnement dont on n'est pas encore sorti. Moi, je me suis intéressée dans l'école que je dirige à savoir qu'est-ce qui marchait pour celles pour lesquelles ça marchait, donc celles qui passent le cap, celles qui arrivent dans mon école. Là aussi, elles surperforment, elles sont dans les 20 premiers, il y a 12 femmes, alors qu'elles sont en minorité, donc c'est phénoménal. Donc on a demandé à plein de femmes dirigeantes du public comme du privé, comment elles étaient devenues femmes dirigeantes, comment elles avaient osé un jour se dire « tiens, ça peut être moi ». 88% de ces femmes font la même réponse.
C'est mon père qui m'y a encouragée. Donc, messieurs, au travail. Ça veut dire que le schéma très ancien de celui qui va gagner le pain et celle qui reste au foyer est tellement ancré dans nos têtes qu'il faut l'autorisation de celui qui sort pour que la fille sorte aussi. Alors, c'est pas toujours pour des bonnes raisons hein, que le père encourage sa fille. C'est parce qu'il a une fille unique ou que des filles. Parce qu'on a, on a creusé, c'est un questionnaire, c'est un vrai questionnaire. Ou c'est parce que le fils aîné n'était pas doué et que bah, par résignation et après beaucoup d'efforts de cours particuliers et de soutien, on s'est aperçu que la fille s'en sortait pas mal. Et c'est comme ça que les filles sortent du lot. C'est assez perturbant, c'est aussi très préoccupant parce qu'un père qui dit à sa fille qu'elle peut y aller, qui croit en elle, c'est pas forcément un père d'un milieu social très défavorisé. C'est pas forcément un père qui vient d'une culture autre. Et c'est donc une autre forme de discrimination qui s'enclenche en même temps que la discrimination entre les genres. Mais tout ça n'est pas une fatalité si on le sait, si on le mesure, si on y réfléchit, si on se met d'accord, si on ne pense pas que c'est un complot des hommes contre les femmes, mais simplement des vieux restes, peut-être gréco-romains, un peu chrétiens, un peu napoléoniens, et que quelque part, un fond celtique nous permettrait de retrouver notre place auprès des druides, on peut essayer de s'y atteler et on peut même essayer d'y arriver. Merci à tous et à toutes. Maintenant, je prends vos questions.
Alors. Merci, madame. Vous êtes quand même un bon exemple d'une réussite féminine, bien que je vais nuancer, vous êtes dans l'éducation, et là, il y a peut-être un gros taux de femmes, mais bravo. Moi, j'ai juste une réflexion à vous faire, et après ça, j'ai une question. Je pense, madame, qu'il y aura égalité des hommes et des femmes quand il y aura égalité des hommes et des femmes dans la religion. C'est nos racines profondes, vous l'avez probablement jamais entendu, je ne l'ai jamais entendu, mais je crois que quand il y aura égalité dans la religion, ça créera une espèce de force profonde pour qu'il y ait égalité et pas l'inverse. Ma question est, en ce qui concerne l'éducation des femmes, c'était très intéressant, alors vous avez parlé de Napoléon ou Napoléon III. Il faudrait que vous me confirmiez, Napoléon, c'est lui qui a commencé à faire des écoles, mais non mixtes, écoles pour femmes, surtout écoles pour femmes. Et Napoléon III a commencé à faire des écoles mixtes, c'est ça? Merci beaucoup.
Alors, sur la religion et la place des femmes, bon, on peut gloser à l'infini sur la poule et l'œuf. Si dans la cité, on pouvait déjà se préoccuper un peu moins de l'interprétation de la religion, parce que la religion, c'est quoi? C'est les textes ou c'est le clergé, les églises? C'est parfois deux choses très différentes. Mais si dans la cité, chacun, chacune, on se disait « on n'attend pas, on y va », c'est quand même bien ce qu'a fait le Second Empire, je voulais lui rendre cet hommage, et puis la Troisième République, de sortir l'instruction de l'influence de la religion. Victor Hugo avait des pages vitriolesques sur la nécessité de sortir les jeunes de l'influence du clergé. Là encore, je redis clergé et pas religion. Après, les premières écoles publiques non obligatoires, c'est la Révolution qui les lance. Il y en avait un petit peu avant, hein. Il y avait en dehors des écoles religieuses. Mais ça ne marche pas bien parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de maître. Et c'est la préoccupation de Napoléon de trouver comment... Il y a des pages extrêmement intéressantes, j'en ai pas parlé ce soir parce que malheureusement il ne s'est intéressé, ou heureusement, je ne sais pas, qu'à l'éducation des garçons, sur comment faire pour envoyer à cette tâche si importante de l'éducation des garçons
des maîtres qui accepteraient de travailler avec des jeunes mal élevés qui ne tiennent pas en place et pour un travail aussi mal payé. On a l'impression d'être en 2017 quand on lit ça. Et d'ailleurs, il ferme les yeux et il laisse les frères des écoles chrétiennes venir travailler et éduquer les garçons pauvres, parce qu'il faut bien que quelques-uns s'y collent. Et finalement, les religieux acceptent de ne pas être payés du tout. Et ça lui tire une épine du pied. Donc, ensuite, l'école publique laïque obligatoire, c'est Jules Ferry, bien sûr. Pourquoi je ne vous ai pas parlé de Jules Ferry? Tout simplement parce qu'il ne s'est pas plus intéressé aux filles qu'aux garçons. Les écoles de filles dans tous les villages à partir de 500 habitants, c'est Victor Duruy, donc c'est le Second Empire. C'est ce moment-là où on pense que l'instruction des filles, c'est important, parce qu'on est dans la révolution industrielle, parce qu'on est dans une logique où il faut que les agents de production aient quelque chose dans le crâne, sans quoi on n'y arrivera pas. Donc on est à ce moment-là, il y a un premier basculement. Mais Napoléon Ier, dans l'éducation des filles, c'est, à part la Légion d'honneur, parce que c'est les filles des combattants qui ont été décorées. Alors c'est très bien sur le plan social, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre des gens fortunés et d'autres qui ne le sont pas, qui peuvent envoyer leurs filles à la Légion d'honneur, ce qui fait d'ailleurs que les fortunés ne les envoient pas, parce qu'elles seraient à côté de filles de mauvaise famille, et que ceux qui le peuvent soit continuent à les envoyer au couvent, soit font venir des précepteurs, mais évitent à tout prix qu'elles se mélangent avec les pauvresses de la Légion d'honneur.
Moi, j'avais pas vraiment une question, mais plutôt une remarque pour lancer un peu la discussion sur l'enjeu en fait de l'éducation des filles, parce que je pense qu'il y a toute une histoire et il y a beaucoup de causes, mais aujourd'hui, je pense que l'éducation des filles, c'est vraiment un enjeu, et je pense que le monde de demain a besoin de miser sur ça. Moi, je travaille dans le développement international, et ça a été étudié, c'est les pays qui réussissent, c'est ceux qui ont misé sur l'éducation des filles et c'est ceux qui ont investi. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, on n'investit pas assez, notamment dans les pays en développement. Je travaille en Afrique, en Inde. Il est clair que pour sortir de la pauvreté, il faut investir dans l'éducation des filles, dans le planning familial également. Donc ça, c'est des choses qui sont très, 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 très fortes. C'est des politiques qui peuvent vraiment changer le monde. Et je pense qu'il y a une chose qui est claire, c'est que la femme est l'avenir de l'homme, en gros. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'idée. Pour moi, c'est ça, ce sur quoi il faut se focaliser pour vivre dans un monde un peu meilleur, quoi.
Alors, vous avez raison sur le fait qu'il y a des pays où l'éducation des filles reste un enjeu majeur. Je n'ai pas parlé de Malala Yousafzai et du fait qu'elle a risqué sa vie et son père aussi, parce qu'il militait pour que les filles aillent à l'école. Ce n'est pas toujours une question de moyens. Moi, j'ai vécu au Maroc. Il y a des écoles partout. Et il y a des écoles vides parce que les petites filles n'y vont pas, parce que les parents préfèrent les garder pour les tâches ménagères et pour les travaux des champs. C'est une question de mentalité avant d'être une question de moyens. Il faut que ça vaille la peine de se passer de bras. Vous savez bien que quand Jules Ferry a voulu rendre l'instruction obligatoire, il a accepté des vacances d'été qui correspondaient aux travaux des champs pour que les paysans acceptent de mettre leurs enfants à l'école. La question n'est pas résolue encore dans un certain nombre de pays. Et ce n'est pas seulement une question d'éducation, il faut évidemment commencer par là, mais le sujet pour des pays comme le nôtre ou d'autres pays développés, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette éducation? Aujourd'hui, 60% des diplômés de l'enseignement supérieur en Europe et notamment en France sont des femmes. Donc de ce point de vue-là, la parité est acquise, et je parle au niveau du master. En revanche, dans des fonctions de responsabilité en France, le chiffre est de 12% de femmes cadres dirigeantes, secteur public, secteur privé confondu. Il n'y a pas un secteur où ce soit mieux qu'un autre. Même les plus intuitifs ne donnent rien. L'université est par exemple un très mauvais exemple. Il y a très peu de femmes présidentes d'université. C'est un gâchis c'est un gâchis d'argent. On investit dans l'éducation, la formation de petites filles puis de jeunes filles. On croit en leur talent si on va jusqu'à leur donner un diplôme de master. Et 20 ans après, on n'a pas fait forcément grand-chose. Alors, c'est pire en Allemagne pour des raisons culturelles qui sont l'idée qu'une mère qui travaille est une mauvaise mère, une mère corbeau, comme on appelle ça en Allemagne. C'est pire au Japon. Moi, j'ai fait deux fois de suite des conférences au Japon à la demande de Shinzo Abe, parce qu'il a chiffré ce que le Japon perd en points de croissance parce que trop peu de femmes travaillent. De la même manière qu'en Europe, les femmes suivent des études supérieures brillantes et s'arrêtent au moment de la naissance du premier enfant au Japon. Parce que la société japonaise est pleine de stéréotypes. Alors, on peut en parler longtemps, hein, de stéréotypes féminins terribles et de stéréotypes masculins terribles. Moi, quand on m'a demandé de faire ces conférences pour expliquer pourquoi l'égalité entre les femmes et les hommes était source de bien-être général et de progrès pour la société en général au Japon, je faisais ces conférences devant des publics à 95% masculins. Je peux vous assurer que quand vous entrez dans la salle, vous vous dites « il va falloir que je trouve un truc ». Parce qu'on leur a dit qu'il fallait venir à ma conférence, mais pas sûr qu'ils soient convaincus. Et je passais la première heure à parler avec eux, mais surtout à les écouter pour parler du poids des stéréotypes masculins au Japon. J'avais une heure de complainte de Jérémiade sur le fait que c'était épouvantable d'être un homme au Japon. Et au bout d'une heure, je leur disais ben, « très bien, j'ai appris plein de choses, maintenant il faut que je vous dise c'est encore pire d'être une femme ». Et là, il y avait un début de quelque chose, mais Shinzo Abe, lui, a un argument encore plus brutal. Il explique aux Japonais que, puisque la population japonaise décroît, que la croissance japonaise est atone, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'amener les femmes à travailler, parce que c'est les femmes ou les immigrés. Et là, les Japonais disent, non, quand même, les femmes, c'est mieux. Ça, j'utilise pas cet argument, moi, mais apparemment, ça marche assez bien. Donc, dans les pays développés aussi, on a ce sujet de, une fois qu'on a éduqué les filles, qu'est-ce qu'on en fait ? Aux États-Unis, c'est très difficile d'avoir plusieurs enfants en bas âge parce que rien n'est fait pour faciliter la garde des petits-enfants. Tout ce qu'on a ici, les crèches, les assistantes maternelles agréées, aux États-Unis, ça existe à peu près pas. Même l'école maternelle commence très tard et les rythmes scolaires sont faits de telle sorte que les enfants sont libérés vers 13 ou 14 heures. Donc, soit vous êtes très riche et vous avez de quoi vous payer une nounou philippine qui gagne une fortune avec, tant mieux pour elle d'ailleurs, mais une convention collective hyper encadrée. Soit vous êtes un peu moins riche et vous arrêtez de travailler. Soit vous êtes pauvre et vos enfants sont dans la rue. Et c'est globalement ça l'équation américaine aujourd'hui. Moi, quand j'ai eu mon quatrième enfant aux États-Unis, on m'a demandé si j'étais amish, mormone, ou si j'appartenais à une religion où c'était obligé d'avoir plein d'enfants, parce que c'était pas normal dans mon milieu social, entre guillemets. Et je rebondis, madame, oui, c'est vrai, je suis une femme dans l'éducation, donc... pas si fort que ça. J'ai été aussi 26 ans une femme dans la diplomatie. C'était un peu moins évident. Non, mais je plaisante. Vous inquiétez pas, je plaisante. Je plaisante. Mais c'est pas évident d'avoir des jeunes enfants aux États-Unis et de pouvoir s'en occuper. Et devinez quoi ? Donald Trump, dans sa campagne pour les élections présidentielles, a promis aux femmes américaines un congé maternité rémunéré. Ne vous demandez pas pourquoi 42% des femmes blanches ont voté pour lui. Autre question. Alors, je ne vois pas grand-chose parce que j'ai le projecteur dans l'œil.
et que par coquetterie, j'ai retiré mes lunettes en plus, ce qui n'est pas malin. Mais...
Bonsoir, merci. J'ai une petite question. Vous avez parlé des excisions peu connues concernant l'Asie et l'Asie sud-est. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quels sont les pays ou les coutumes?
Alors, je n'ai pas la liste exhaustive et je ne l'ai appris que par les confidences de mes amies musulmanes indonésiennes qui, après des années de camaraderie et de connivence, quand je leur parlais des campagnes en Somalie contre l'excision, me disaient « mais enfin, mais si tu crois que c'est que pour elles, etc. » Il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne que ça leur était arrivé aussi. Je suis très frappée, là pour le coup, de l'attitude des hommes, et notamment des hommes occidentaux. Je ne dédouane pas les hommes africains. Bon, d'abord, j'aurais commencé par rappeler que l'excision, c'est généralement quelque chose que la mère impose à sa fille, ou la tante, ou la grand-mère. Ce n'est pas non plus un grand complot masculiniste, comme diraient certains jargons que j'aime pas trop. C'est la croyance que si ça n'est pas reproduit de génération en génération, la honte s'abat sur la famille. Mais c'est une croyance qui est transmise par les femmes d'abord. Mais beaucoup de pays, notamment beaucoup de pays africains où l'excision est pratiquée, sont des pays de tourisme sexuel occidental. J'ai pas eu l'impression que c'était particulièrement dénoncé avant que des femmes africaines courageuses se mettent à militer contre ça et se mettent d'ailleurs à avoir des résultats au Burkina Faso, un petit peu au Mali et dans quelques autres pays africains. Et ça, je trouve ça très, très perturbant quand même. Je vais faire un saut qui va vous paraître étrange, mais je suis féministe, vous l'avez peut-être compris. Je m'exprime sur les causes sur lesquelles j'espère être légitime. Je sais combien il y a aujourd'hui d'hommes qui peuvent être choqués par des situations de violence faites aux femmes, de sexisme, ou tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, entretient une situation des femmes qui n'est pas acceptable. Je suis extraordinairement frappée de la manière dont c'est couvert par les médias. Je donne un exemple qui n'est peut-être pas consensuel, mais tant pis. La question de savoir si Roman Polanski devait ou pas présider la cérémonie des Césars. Je rappelle que Roman Polanski a fui la justice américaine après avoir assumé une première fois un plaidé coupable pour le viol d'une mineure de 13 ans. La manière dont une radio publique française a martelé pendant des heures la phrase suivante, je cite, « Roman Polanski, le réalisateur multi-récompensé, renonce à présider la cérémonie des Césars sous la pression des organisations féministes. » Ça vous dit quoi, cette phrase-là ? Que la victime, c'est lui ? Que les vilaines, c'est elles, et qu'il n'y avait pas un homme dans ce pays qui était choqué par le choix de Roman Polanski comme président de la cérémonie des Césars. Ça dit énormément de choses sur quelque chose qui me paraît tout à fait essentiel si on veut changer les mentalités. On parle tout le temps de l'école. L'école doit tout faire, doit tout réussir. Elle doit nous faire des parfaits petits citoyens qui croient aux valeurs républicaines, à l'égalité, à la laïcité et à tout le reste. On s'occupe assez peu de ce que véhiculent les médias. Alors, c'est vrai qu'il y a une prise de distance vis-à-vis des médias, mais quand même, quand vous entendez pendant des heures cette phrase-là et que ça choque personne... Moi, ça me pose des questions sur notre tolérance à un regard quand même très particulier, je ne vais pas dire masculin, mais tout simplement archaïque,
sur les relations entre les hommes et les femmes. Je passe sur Alain Delon qui dit « Si on me proposait de présider les Césars, je n'irais pas en solidarité avec Polanski. » Ça tombe bien, on ne lui a pas proposé. Mais enfin, c'est des choses qui... on nous dit qu'il a dit ça et on ne dit pas « Tiens, c'est quand même... » Enfin, imaginez que Polanski ait commis un autre genre de crime avec délituite derrière. Peut-être qu'on aurait été moins à l'aise, moins détendu pour en parler qu'on a l'air de l'être pour ça. Et c'est le cas pour beaucoup de choses assez curieuses qui se passent dans les médias. Les émissions de Cyril Hanouna qui sont à peu près systématiquement sexistes et homophobes. Alors il y a des mobilisations sur Twitter, oui. Le CSA est saisi, oui. Ça fait encore monter l'audimat de Cyril Hanouna et probablement son salaire tous les mois. On est un drôle de pays de ce point de vue-là.
Merci. Bonsoir. Pour avoir un petit peu d'optimisme, parlez-nous des futures promotions de l'ENA et de ce que vous avez pu faire pratiquement pour que justement nos futurs administrateurs nationaux soient plus féministes ou plus sensibilisés à cette problématique.
D'abord pour qu'il y ait un peu plus de femmes quand même. Alors pas de discrimination positive, d'abord parce que c'est interdit par la Constitution. L'ENA est un objet bizarre qui tient par tout un tas de fils assez particuliers. Et donc, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, repris par la Constitution et qui s'applique à l'ENA, les emplois publics sont accessibles à tous sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. On savait écrire à cette époque-là. Donc, pas de discrimination positive dans les concours. Mais en tout cas, moi, j'ai fait... le travail nécessaire pour m'assurer qu'on mettait fin à la discrimination positive précédente, celle qui faisait qu'on avait systématiquement une majorité écrasante d'hommes dans les reçus à l'ENA. Alors qu'il y en ait une année et puis pas, après, pas l'année d'après, bah, il y a des cuvées avec, des cuvées sans, mais que tout le temps, et en particulier à l'oral, il y ait moins de femmes admises que de femmes admissibles, ça ne pouvait pas ne pas poser question. Donc on a fait venir des chercheurs et puis on a épluché, on a assisté à des dizaines d'oraux depuis plusieurs années. Et puis on a modifié les choses. Alors ce qu'on a trouvé est un peu vertigineux, mais ça nous ramène au sujet de ce soir. Donc merci pour votre question. À l'oral, donc ce qu'on appelle le grand oral de l'ENA, qui s'appelle plus le grand oral depuis 15 ans, mais qu'on appelle comme ça encore, enfin pas moi, mais vous, l'entretien avec le jury. Qui est un entretien destiné à savoir un peu à qui on parle, puisque c'est un recrutement quand même, le concours de l'ENA. 45 minutes, les garçons répondent à 5 questions, les filles à 15 questions. Parce que les filles répondent juste ce qu'elles savent, pas un mot de plus, et puis elles attendent poliment la question d'après. C'est très exactement le résultat de ce que je vous ai décrit tout à l'heure sur la manière dont on les a traités depuis la petite école. Les garçons, faites leur confiance. La première question tombe, ils se disent « Fabuleux, je sais à peu près quelque chose là-dessus, je ne lâche plus. » Et on voit, mais c'est physique, ils prennent le pouvoir sur l'entretien. Et on voit le garçon qui se dit « Le type qui va m'interrompre n'est pas né. » Parce qu'on ne sait jamais la question d'après, il pourrait savoir moins bien. Et quand je suis arrivée à l'ENA, c'est ce qui se passait. Et alors, j'allais voir les jurys à la pause et je leur disais « Il était comment le candidat là, qui vient de passer ?» On ne sait pas très bien qui il est, mais il est sympa. J'attendais... Si on le prend, c'est pour 35 ans. Hein. Donc, ce serait pas mal si on savait un peu qui il est. Je suis contente de savoir qu'il est sympa, mais ça suffit peut-être pas. Donc, on a fait, première chose extrêmement simple, 10 questions pour tous les candidats, avec un entraînement des jurys à ne pas poser les questions qui servent à rien, les questions sur les loisirs. D'abord parce que c'est discriminant socialement. On n'a pas les mêmes loisirs selon qu'on vient de Montreuil ou de Passy. Et quand on est mère de famille avec des jeunes enfants, j'en ai un souvenir assez vivace, on n'a pas de loisirs du tout. Donc effectivement, les jeunes femmes chargées de famille, à loisir, elles disaient bah, « j'ai révisé l'ENA et puis j'ai fait les repas et les courses ». Maintenant, comme entretien avec le jury, ce n'était pas flambant. Donc on a viré les loisirs, parce que les loisirs, ça fait de l'entre-soi. Hein. C'est « tiens, on dirait moi, il y a 20 ans, vous aimez le clavecin, moi aussi ». Bon, bref. Et alors ensuite, on forme tous nos jurys à ce qu'on appelle très pudiquement, pour qu'ils ne partent pas en courant, les biais inconscients. Alors, vous avez tous envie de vous faire former aux biais inconscients, parce que c'est chic. En fait, c'est faire surgir vos préjugés. Là, c'est moins chic, mais c'est ça. C'est vous faire prendre conscience de ce que vous appréciez ou de ce que vous n'appréciez pas pour de mauvaises raisons. Alors, on s'est appuyé sur le travail de spécialistes des sciences du comportement. Savez-vous que quand on fait un recrutement, si vous recevez en entretien une femme qui porte un parfum d'homme, vous lui donnerez une meilleure note que si c'est un homme qui porte un parfum de femme? Vous êtes tellement conditionné depuis l'enfance à prendre au sérieux certaines odeurs que sans vous en rendre compte, vous vous dites « tiens, voilà quelqu'un de bien ». On sait aussi qu'on prend davantage au sérieux une voix grave qu'une voix aiguë. Ça fait donc des années que je travaille pour faire baisser ma voix. Une personne grande qu'une personne petite, et ça, je n'y peux rien, c'est fichu. Mais le jour où on sait que la personne qui entre dans la pièce, on ne va pas s'obnubiler sur sa taille, la tessiture de sa voix et encore moins son parfum, évidemment. On va se concentrer sur quelles sont les compétences qu'on cherche et comment on les évalue de la manière la moins arbitraire possible. En faisant ça, avec tous les jurés, alors on a commencé par l'entretien avec le jury, parce que ça, c'était d'abord très symbolique, et puis c'était vraiment un entretien de parcours, de motivation et de potentiel. Et puis on s'est aperçu qu'il fallait le faire même dans des jurys dits techniques. Même dans un jury de langue, on a une attitude qui peut être différenciée selon la personne qui arrive devant vous. Donc prendre conscience de ça, c'est important. En mettant tout ça bout à bout, on est monté à 45% de femmes reçues à l'ENA, pas tous les ans, mais comme on n'a que 40% de femmes qui candidatent, on ne peut pas faire des merveilles non plus. Et il faut lutter contre tout ce qui fait qu'on leur dit dans leur entourage familial, amical, que ouais, les concours, d'accord, mais l'ENA, il ne faut pas exagérer, c'est quand même sélectif et exigeant, donc pas pour une femme. Alors que dans les 20 premiers, on a 12 femmes et toujours sans aucune discrimination positive. Ensuite, pendant que les élèves hommes et femmes sont en scolarité avec nous, il y a des conférences et des ateliers sur, bien sûr, la conduite des équipes, donc des hommes et des femmes, la sensibilisation aux questions de harcèlement, la sensibilisation aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes, pour que ce soit vécu comme une évidence. Alors, je suis très méfiante, parce que la tendance est à penser que la jeune génération est forcément plus vertueuse que la précédente, et que comme ils sont Y, Z, ou tout ce que vous voulez, ils sont pour l'égalité, qu'ils sont débarrassés de nos vieilles lunes. J'attends toujours de voir le moment où ils ont à la fois des jeunes enfants et des propositions de carrière alléchantes. Dans la même étude où 88% des femmes qui avaient des postes importants nous avaient répondu que c'était leur père qui les avait encouragées, on avait demandé à des hommes qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient en train de se préparer à des postes exigeants. Et on a eu cette réponse extraordinaire, parce qu'en plus j'ai trouvé par inadvertance qui l'avait faite, même si le questionnaire était évidemment anonyme. J'ai une femme formidable, elle ne s'intéresse pas du tout à son travail. Le garçon a 36 ans. Donc la vertu des jeunes générations, j'attends de la tester sur la durée. Il faut que je m'arrête, parce qu'à la différence de mes candidates, moi je parle longtemps, presque trop, et donc je voulais vous remercier de vous être intéressé à ce sujet et vous dire qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, je ne pense pas que la femme soit l'avenir de l'homme, mais je pense qu'il y a un bel avenir à construire ensemble. Merci.